Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
8h47 sur Sud Radio, je vous rassure, je ne suis pas tout seul. Ouais, elles sont là. Françoise Degois.
Et on parle de façon courtoise, donc c'est pas la peine de commencer.
Pour l'instant.
Bon, bien sûr, nous serons courtois.
Mais quand on s'engueule, toujours de façon courtoise parce qu'on s'adore.
Et bien voilà. Vous savez quoi, on va mettre de l'huile sur le feu. On va parler.
Allez, le burkini par hasard.
Et le burkini, voilà.
Eh ben non.
On va commencer par le. Non, mais
je
alors.
Je m'énerverai pas.
Mais non, mais elle est laïque.
On va en parler rapidement parce que pour le coup, on en a déjà pas mal parlé effectivement ce matin sur Sud Radio, notamment avec votre chronique, Elisabeth Lévy, où vous disiez que voilà, c'était une bonne nouvelle. Le tribunal administratif de Grenoble qui suspend l'autorisation du burkini dans les piscines municipales. L'affaire n'est pas finie puisque Éric Piolle, le maire de Grenoble, a décidé de saisir le Conseil d'État. On verra ce qu'il en est.
Et je fais assez peu confiance au Conseil d'État
oui,
sur ce genre de
sujet. Que cette décision,
François
Segois. C'est évident que cette décision sera cassée. Enfin, à 90%, évidemment qu'elle sera cassée. C'est pas un jugement sur le fond qui a été rendu là. Bon, on arrête, on suspend, ça sera cassé. Je suis complètement étonné, si vous voulez, du manque de flair politique d'Éric Piolle qui fait tourner maintenant cette campagne législative autour d'une affaire qui n'est qu'une affaire qui fait que fracturer. C'est comme si la gauche était. Et j'ai adoré ce qu'a dit Mélenchon la semaine dernière quand il était harcelé sur le burkini, il a dit je ne suis pas le premier ministre des burkinis, j'ai trouvé ça assez drôle, parce que honnêtement, tout dans le tempo, tout dans cette affaire me dérange en fait, en vérité, tout me dérange dans cette affaire, j'en ai marre qu'on fasse un symbole, j'en ai marre de l'offensive politique sur le burkini, j'en ai marre de l'instrumentalisation, j'en ai marre de cette décision qui de toute façon sera cassée, j'en ai marre de ce sujet, moi je suis pour la législation nationale, voilà, et c'est tout.
Ah bah
et
ça qu'il dit, voilà. Ouais.
Je suis à fond pour ça, bon, et puis on se épice ses burkinis, et bien...
La Jacobine Françoise Degois.
Bien sûr, ouais. Décision nationale et pas de burkinis dans les piscines.
Ouais. C'est pas une question de Jacobini, je suis navré, la loi c'est, comme disait, je ne sais plus qui, Karine Malberg, si je ne m'abuse, j'apprenais ça à Sciences Po, la loi est l'expression de la volonté générale.
C'est
là,
ça, c'est
on
ça.
Sent déjà tout de suite mieux.
On sent là, je vibre.
Mais, non, la seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que Jean-Luc Mélenchon a essayé de prendre ça à la rigolade, parce que évidemment, il est quand même. Ah non, ma chère Françoise, vous savez,
la règle, c'est commencer.
Que je finis mes phrases.
Voilà.
Exactement. Merci Françoise.
On va laisser finir Elisabeth.
Si c'était une martyre de la phrase coupée. Non,
oui, je suis une martyre de la phrase coupée, surtout par vous.
Allez-y, Elisabeth. De toute façon, John est à la réalisation. Moi, je lui demande à John de couper le micro à Françoise. Je me fais engueuler derrière, mais bon, j'assume. Allez, c'est parti.
Non, je finis ma phrase. Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon. Pardon, excuse-moi, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon a vraiment tort de prendre ces sujets à la rigolade, mais on voit bien qu'il est embêté, si vous voulez, parce qu'en fait, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon est embêté par Jean-Luc Mélenchon, parce que je crois que son ADN, à lui, c'est celui d'un vieux laïcard, et que sur ces sujets, honnêtement, il doit pas être si loin de moi. Mais que ces dernières années, il a fait une évolution... que je ne crois pas qu'électoraliste d'ailleurs, qui est électoraliste, qui a de grands avantages électoraux, si vous voulez, mais avec tous ces gens d'ensemble, de Clémentine Autain, Daniel Obono, etc., tous ces gens très différentialistes en vrai, qui voient souvent d'abord la race, d'abord les racisés, comme ils disent, si vous voulez, avant de voir des êtres humains qui ne sont pas très républicains, évidemment tout le monde est républicain, hein, tout le monde respecte les lois de la République, qui ne sont pas dans leur ADN de farouches républicains, eh bien je pense que... Si, c'est Clémentine Autain, excusez-moi, je la connais, c'est pas une farouche républicaine, au sens opposition république multiculturelle.
Bon, là, c'est pas la peine de faire le procès de Jean-Luc Mélenchon.
Mais bon sang, François, je dis ce que je veux, et vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon, je vous dis, moi, que là-dessus, il est ambigu. Et je pense qu'il a tort de rigoler sur un sujet qui est grave, parce que contrairement, et j'en finis là-dessus, à ce que vous pensez, cette offensive islamiste n'a pas cessé, et ça continue. Je publie dans le prochain causeur un reportage sur un village de Seine-et-Marne. Si vous voulez, il y a un problème grave.
D'accord.
Et ce problème doit être traité.
Vous dites. Je ne mésestime pas l'offensive islamiste de l'islam politique. Je ne la mésestime pas. Je dis simplement qu'il ne faut pas la faire plus grosse qu'elle n'est. Je pense que la République est assez solide pour résister à ces coups de boutoir. Je suis absolument persuadé. Regardez ce qui se passe à Rennes. Le burkini est autorisé à la piscine de Rennes. Il n'y a pas de sujet. Là, on en fait un sujet parce que c'est le maire écolo de Grenoble qui lui-même l'instrumentalise. Lui-même en fait quelque quelque chose, un débat presque malsain à un moment critique.
Mais il n'aide pas son camp.
Mais non, il n'aide pas son camp à un moment critique de la politique. C'est laisser penser que la gauche c'est le burkini. Non, c'est exactement, vous savez, c'est aussi pervers que quand Emmanuel Macron nomme Pape Ndiaye, qui est un intellectuel
à l'éducation nationale,
avec l'idée que il pense que toute la gauche, évidemment, est pour la cancel culture et woke, etc. Pas du tout. Donc c'est une méconnaissance totale, profonde des ressorts de la gauche. Et je pense que Piolle se trompe complètement. Je pense qu'il a tort de porter ce débat pendant un moment aussi crucial. De quoi elle a besoin à la gauche aujourd'hui ? Elle a besoin de rentrer massivement au Parlement pour mettre du rapport de force. Je pense qu'Emmanuel Macron se trompe en instrumentalisant un coup les thèmes du Grand Rassemblement, ou en tout cas en flirtant avec l'extrême droite. Un coup Pape Ndiaye, en encourageant son ancien ministre à combattre le wokisme partout, supposément, ou nulle part plutôt, et après en nommant un ministre à l'opposé à l'éducation. Je pense que tout ça est épuisant et tordu sur le débat public. Je suis d'accord avec Elisabeth sur l'idée, il y a bien sûr une offensive politique islamiste, mais je ne la vois pas aussi importante qu'elle, et j'ai une immense confiance dans la capacité résiliente des citoyens de ce pays et de la République.
Ben je pense qu'elle est suffisante.
Un dernier mot d'Elisabeth, et après on va au standard 0826.
Moi je lis les études, je vois bien que cette offensive elle est plus importante que ce que vous croyez, et pardonnez-moi Françoise, là je vous le dis tout à fait sérieusement, la gauche a totalement failli sur ces questions. Écoutez, ouais. Je vous écoute. Non, mais vraiment.
Allez-y,
donc écoutez-moi, parce
allez-y,
que la gauche s'est compromise d'une façon, ou une partie de la gauche s'est compromise, quand j'entends Alexis Corbière qui lui-même est pas du tout, pense pas du tout ça. Il ne pense pas ça. Je le connais depuis longtemps, Corbière. Oui. Et il n'est pas du tout sur cette ligne. Quand je les vois flatter la fibre victimaire, flatter la fibre communautariste, ça me fait d'abord, ça me révolte, ça me fait de la peine, c'est dangereux, et je fais des interviews dans mon prochain numéro de Causeur qui va pas vous plaire, la une, ou j'espère qu'elle va vous faire marrer, je vous la dirai après, si vous voulez, il y a véritablement un problème autour de ces questions, et par ailleurs on devrait avoir un débat là-dessus, un véritable débat, il y a un beau et grand débat, parce qu'il y a des gens, peut-être un peu Emmanuel Macron d'ailleurs, qui pensent qu'aujourd'hui le modèle républicain est dépassé, que dans un monde de diversité, il faut adopter le multiculturalisme. Le multiculturalisme, il y a deux modèles pour accommoder les différences. Le multiculturalisme, la république assimilationniste, singularité française. Eh bien, il y a beaucoup de gens, peut-être un peu Jean-Luc Mélenchon ou des gens dans son entourage, Emmanuel Macron, qui pensent sincèrement, qui croient c'est fini, maintenant c'est trop divers les sociétés, chacun doit venir comme il est. Eh bien moi, je pense qu'on doit avoir ce débat en France.
Je vous donne la parole juste après. On a Chantal qui nous appelle.
Je réponds rapidement et après Chantal aura tout le temps qu'il faut.
Ne quittez pas Chantal.
Je suis absolument d'accord sur la pensée profonde d'Emmanuel Macron. C'est plutôt Pape Ndiaye que effectivement, la pensée profonde d'Emmanuel Macron, c'est plutôt le modèle Whitechapel, c'est-à-dire chacun vient comme il est, c'est-à-dire vous êtes
McDo, moi j'appelle ça le modèle McDo.
Mais non, moi j'ai Whitechapel, vous êtes sikh, vous avez votre turban, vous avez la burqa, voilà. Ça, c'est le modèle complètement anglo-saxon. Jean-Luc Mélenchon, c'est autre chose. Je pense que ce débat, il a eu lieu pendant la présidentielle. Mélenchon n'a eu de cesse de parler de la créolisation, c'est-à-dire un mélange général, enfin un mélange. Le sens de l'histoire étant la créolisation. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'avoir un débat serein serait merveilleux.
On vous a écouté là-dessus, et c'est vrai. Pardon. Et pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec vous là, sur la question du débat. C'est vrai que c'est important. Et on continue le débat avec Chantal qui nous appelle depuis à côté de Tarbes. Chantal, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour
oui.
Chantal.
Bienvenue
bonjour.
Sur Sud Radio. On vous fait un peu de place sur Sud Radio.
je regrette que le fonctionnement des médias se passe ainsi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un fait d'actualité dans la journée, dans la semaine, et tous les médias parlent de ça. Et ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on prenne un thème, c'est que vous preniez un thème, comme par exemple le pouvoir d'achat, l'emploi, enfin, le logement, etc., et que tout le monde puisse se dire son avis, c'est-à-dire la droite, la gauche, le milieu, etc., et qu'on soit véritablement informé. Parce que là, les débats sur le burkini, moi, je les écoute plus. C'est fini.
Chantal,
c'est
fini, Chantal. C'est fini. Alors, Chantal, oui. Je vous entends. Et ben, vous savez quoi, juste après les infos, là, de 9h, on a Éric Revel qui nous parle de l'emploi et du chômage. Voilà.
Donc, on D'accord, parle pas mais du Éric burkini. Revel, ok, mais Éric Revel, c'est pas toute la panacée de. C'est pas toute l'information. Et c'est ça qui est regrettable.
Ah,
c'est
non, que moi, j'entends
à chaque
tout
fois,
à fait.
On a un avis.
Qu'est-ce qui vous préoccupe à vous, Chantal? C'est quoi votre.
On a beaucoup parlé cette semaine dans les débats du pouvoir d'achat, effectivement.
Que c'est le pouvoir d'achat, le climat, tout ce que. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour. Résister à cette. Pour s'adapter et pour résister à ces changements de climat. Enfin bon, tout ça, c'est très important.
Raison,
hein,
vraiment.
C'est beaucoup plus important que le burkini. Quoi.
Vous avez 100% raison.
On vous entend.
Et parler du burkini inlassablement, comme parler de l'affaire Abad,
enfin,
comme
y a
avant.
Eu une décision oui, hier parler, de
non, 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 mais c'est pas notre fait. Eh ouais. Bien, c'est, ça occulte effectivement l'essentiel. Moi, je suis d'accord.
Complètement. On ne connaît pas le programme de M. Macron, hein, quand même.
C'est vrai.
Personne ne le connaît.
Je l'ai dit dans mon édito, on ne sait même pas à quel âge sera la retraite.
Coup, alors, ça, pour le coup, on en parle, mais alors, sur la question des retraites, en l'occurrence, ils ne le disent pas eux-mêmes. Ouais. Donc, mais comment vous voulez qu'on informe aussi
non, non,
justement
c'est ce qu'elle
avait
raison, là.
Ah, oui, okay.
Je peux dire un mot, là.
Une phrase.
Eh bien, moi, je suis désolé. Pardonnez-moi, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Et je suis désolé, les questions d'identité, quelle communauté nationale formons-nous? On ne peut pas dire que c'est une question non essentielle.
Il en faut pour tout le monde.
Non, mais il faut faire attention à pas dire c'est ça ou ça.
Non, je pense qu'il faut que ça soit tout. Mais Emmanuel Macron a organisé la non-campagne.
On coupe les micros. Oh, écoutez, voilà. Là, c'est le calme. Et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Toujours, bien sûr, avec Françoise de Goix et Elisabeth Lévy. Et on rajoute Éric Revel, en plus, pour parler du chômage. A tout de suite sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
Avec tout de suite, alors juste un petit rendez-vous, je vous le donne, à 9h30, eh bien on parlera du tourisme avec ce week-end de l'Ascension, forcément. Comment voyager sans dépenser trop? Ça c'est important, on parlait de pouvoir d'achat avec Chantal tout à l'heure, notre auditrice de Sud Radio, on verra ça dans quelques instants, on verra aussi quelles sont les tendances pour les vacances cet été, puis même pour ce week-end prolongé, bien sûr, également aussi. Allez, dans un instant, on retrouve eh bien Françoise de Goix et Elisabeth Lévy qui sont là, mais tout de suite c'est Éric Revel, bien sûr. Bonjour Éric.
Bonjour Benjamin. Bonjour, bonjour mesdames.
Ouais. Petite mauvaise surprise hein, pour le gouvernement sur le front du chômage avec une hausse de 9300 demandeurs d'emploi, soit en un mois plus 0,3%.
Oui, alors c'est une petite mauvaise surprise, hein, c'est une petite hausse, hein, elle n'est peut-être pas significative, mais je voulais en parler ce matin parce qu'elle marque une rupture quand même avec les statistiques précédentes qui marquaient depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an même, hein, une baisse sans interruption du chômage dans notre pays. Alors cette petite hausse, vous l'avez dit, de 0,3% en avril du chômage, c'est l'écho en fait de la petite croissance de 0%, vous vous souvenez, au premier trimestre de l'économie française qui avait nettement marqué le pas. Bref, comme l'a dit Bruno Le Maire, mais évidemment il l'a dit juste après l'élection présidentielle, hein, il ne l'avait pas dit avant, il avait même dit le contraire, les difficultés économiques évidemment françaises sont devant nous.
Oui, il faut dire que les nuages s'amoncellent hein, pour l'économie européenne, donc française.
Oui, bien sûr. Alors, il y a la guerre en Ukraine qui prend racine, hein, passez-moi l'expression. Il y a les chocs inflationnistes, je les mets au pluriel. Il y a un choc conjoncturel, il y a de la spéculation, il y a un choc inflationniste structurel maintenant. Hein. Il y a la remontée des taux d'intérêt, bien sûr. C'est autant d'obstacles à une croissance forte en 2022, il faut se le dire. Hein. Et donc, s'il n'y a pas de croissance forte en 2022 en France, c'est évidemment la porte ouverte à la reprise, et là, sans doute, du chômage. Alors, Emmanuel Macron s'est fixé comme objectif, vous en souvenez peut-être, pour l'économie française, le retour au plein emploi en 2027. Alors on me dirait, ça ne mange pas de pain en 2027 puisque ce sera sa dernière année de quinquennat et qu'il ne se représentera pas. Le plein emploi, c'est un chômage à peu près de 5%. On est à 7,3% aujourd'hui. Bon, c'est encore évidemment atteignable. La promesse d'Emmanuel Macron, bien sûr, va être suivie avec vigilance.
Le précédent quinquennat, en tout cas, a particulièrement soutenu les entreprises quand même, Eric.
Oui, vous avez raison. Il faut quand même saluer la baisse de l'impôt de production qui a eu lieu sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup aidé les entreprises. Il y a eu aussi, il faut le dire, hein, pour l'emploi en France, la bonne tenue de ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, et ça depuis plusieurs années. Bon, tout ça a eu un impact évidemment positif sur l'emploi, mais vous l'aurez compris, il y a quand même beaucoup d'inconnus là, économiques, là, en ce moment, qui s'additionnent sous nos yeux. C'est évidemment un vrai sujet pour le gouvernement, même si l'urgence, on l'a redit hier, hein, et je le dis aussi pour Chantal de Tarbes qui nous écoute, c'est le pouvoir d'achat hein, des Français qui est en ligne de compte. Mmh. Et puis pour lancer le débat, tiens, peut-être avec Françoise et Elisabeth, je ne sais pas si Françoise a vu cette étude intéressante du think tank socialiste Terra Nova. Terra Nova, ça vous dit quelque chose,
Françoise? Il y a longtemps que je ne dis plus Terra Nova, vous savez.
C'est un pire absolu au programme économique de Jean-Luc Mélenchon, en disant qu'il n'est pas réalisable.
Oui, j'ai bien vu, je vois passer les dépêches, mais il y a bien longtemps que je ne lis plus Terra Nova. Et puis on est en campagne, vous savez. Non, j'ai toujours pensé que Terra Nova n'était pas...
A mis la gauche dans les choux.
Non, n'était pas intéressant sur le plan de l'analyse. C'était assez seul à l'époque pour le dire. Ouais. Et après, évidemment, tout le monde est plutôt d'accord avec moi.
Mais il faut peut-être rappeler quand même que Terra Nova, c'est Terra Nova qui a théoriser en quelque sorte l'abandon par la gauche des classes populaires.
Ouais, oui, enfin bon, c'est pas que ça, c'est un peu caricatural, mais en tout cas, je les trouve pas du tout saillants, je les trouve pas... en ce que soit Terra Nova, l'Institut Montaigne, voire parfois la Fondation Jean Jaurès, ça m'intéresse assez peu. Tout ça, ça fait partie des vieilles, des antiennes. Je pense qu'il faut encore, là aussi, dans ce domaine, créer des choses nouvelles et aller dans le sens. Ce sont pour moi des instituts, puisqu'on fait une minute là-dessus ou 30 secondes, qui n'ont pas compris le sens de du changement social, de la complexité. Ils sont vieux, c'est vieux, c'est le seul vieux monde. Il faut vraiment, là aussi, innover. Et pardonnez-moi, vous lisez certainement beaucoup plus les rapports de Terra Nova et de la Fondation Jean Jaurès que moi. Moi, je ne dis pas que c'est un classement vertical, mais ça m'intéresse de moins en moins parce qu'ils sont un peu à côté de la plaque. Quand
excusez-moi
même.
Pour le dessus.
Elisabeth Lévy.
Là, non, mais l'analyse, après, dire que l'analyse en tant que telle, c'est vieux, moi je lis des études de ces... Françoise, franchement, c'est pénible, ça. J'arrive pas à finir une phrase dans la continuité. Je pense que l'analyse du monde tel qu'il est, après on peut avoir a toujours un intérêt. J'ai lu quelque chose de Jean Jaurès il y a quelques jours qui m'a semblé, où j'ai appris des choses. Après, si vous voulez, on leur demande pas de changer le monde. On leur demande, comme disait Marx, il est temps de. Marx disait, nous avons assez analysé le monde. Je me rappelle plus la phrase maintenant. Il est temps de changer. Bien sûr. Je pense qu'il est, aussi question de l'analyser. Mais j'ai une question pour Eric en fait. La première chose, c'est qu'à mon avis, effectivement, le problème n'est plus tant le chômage que le travail qui ne permet pas de vivre. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient tout le temps. Mais la deuxième chose, j'ai lu hier, je ne sais plus où, avant-hier, qu'il y avait une bulle dans la tech qui est en train d'exploser. Et les gens de cet article nous disaient ça ne s'est jamais produit depuis 2000, où il y avait cette fameuse bulle Internet. Donc je voulais savoir, je voulais que Eric éclaire ma petite lanterne.
Oui, alors vous me prenez un peu au dépourvu, Elisabeth, mais c'est vrai
pardon,
que...
Ah pardon, je croyais que vous saviez tout, mon cher Eric.
Ah, mais il est très bon, en fait.
Je ne sais pas tout ce que vous essayez de vous éclairer, d'éclairer votre long terme, ma chère Elisabeth. Oui. Non. Mais c'est vrai que, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2000, hein, il y avait des valorisations boursières de ce qu'on appelait la bulle Internet, avec des valorisations absolument hallucinantes. Vous aviez des start-up qui démarraient, qui avaient des capitalisations boursières supérieures à des groupes industriels mondiaux. Enfin, c'était complètement hallucinant. Et on a la formation, disent les experts, en ce moment, les spécialistes d'une nouvelle bulle Internet, plutôt autour de ces nouvelles start-up qu'on appelle des fintech, qui en fait sont des start-up bancaires financières. Et il y a effectivement des gens qui pointent du doigt l'explosion potentielle de cette bulle Internet pour ceux qui ont investi dedans. Bon, et puis il y a aussi quand même, faut pas se cacher, il y a aussi l'extravagante capitalisation boursière de tous les GAFAM. Aujourd'hui, vous prenez les trois GAFAM mondiaux, ils représentent plus de capitalisation boursière que tous les groupes industriels mondiaux. C'est pas possible.
Ce matin,
ça
Eric,
ne peut pas aller comme ça.
Ouais, pour aller dans votre sens, ce matin, je passais, vous savez, pour rentrer à Sud Radio, il y a un très grand hall parole, avec des informations qui défilent. Et c'est vrai que je suis arrivé à 6 heures et je voyais Elon Musk remet 33 milliards et demi sur Twitter. Et là, vous savez, il est 6 heures du matin, vous dites 33 milliards et demi, ok, mais c'est pas grave parce qu'il en reste encore 200 à peu près, je pense. Et donc, on est quand même dans, on est dans une espèce de... ça n'a rien à voir avec l'économie, ce que je dis, mais l'économie, c'est souvent un sentiment aussi. L'économie, l'économie joue aussi avec le sentiment des personnes ordinaires.
Françoise,
quand on manie des chiffres comme ça, ça paraît complètement...
Le problème, c'est la disproportion avec les États, Françoise.
Le problème, c'est, et puis,
le problème, c'est que vous avez des États, si vous voulez, qui sont beaucoup... qui n'ont pas de rapport de force face à ces géants. Ça, c'est un vrai problème politique.
Non, mais votre exemple de Twitter est très très bon, parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Elon Musk. Dans un premier temps, il a mis énormément d'argent pour acheter tout. Puis il s'est aperçu, parce que ses conseils juridiques n'ont pas eu les informations qu'il demandait auprès de Twitter, ils sont aperçus qu'il y avait sans doute le nombre réel de comptes Twitter actifs par rapport aux faux comptes qui était surestimé. Or, quand vous achetez Twitter et que vous achetez un média, un réseau social comme celui-ci, l'actif que vous achetez, précisément pour la pub que vous allez vendre derrière, c'est le nombre de comptes réels. Or, pour l'instant, Elon Musk a dit « Mais moi, vous ne me donnez pas le nombre de comptes réels. Donc, ça se trouve, vous vendez des faux comptes. » Donc, ça se trouve, la valorisation, là aussi, de Twitter est surestimée parce que son actif est un peu, passez-moi l'expression, vérolé.
Mais vous avez vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand il a fait une déclaration sur son compte Twitter, en une phrase, l'action Twitter a plongé. Et ce matin, l'histoire était que Elon Musk remet 33 milliards et demi dans la boîte et hop, l'action remonte. C'est pour ça que je disais qu'on est dans une espèce de...
Quand Elisabeth posait la question, on est dans la folie. Autour de la bulle Internet.
Ouais, voilà, c'est la bonne question d'Elisabeth. Moi, j'ai vu au Japon, c'est un pays que j'adore, mais j'en parle comme ça, mais quand la bulle Internet a explosé, Tokyo, c'est une ville où je vais assez souvent, où j'ai été assez souvent. Je me souviens d'un hypermarché ouvert 24 heures sur 24 dans le cœur de Tokyo, dans le quartier de Shinjuku. Je me souviens avoir été faire mes courses à minuit parce que je rentrais d'une réunion, il était tard, et j'ai le souvenir qu'à 8 heures du matin, l'hypermarché était fermé et que tous les salariés étaient... Ah oui, l'effondrement de la bulle en 2000, ça a donné ça. Ça a donné à très anglo-saxon Mark Spencer qui est ouvert jusqu'à 8h et qui le lendemain est fermé. Eh bien, ça fonctionne comme ça. Chez nous, on ne le voit pas. Mais en tout cas, j'ai vu ça au Japon. En 2 heures, les rideaux qui se baissent sur des milliers de magasins. C'est vrai et ou c'est faux, Eric?
Oui, non, c'est juste, c'est juste. Je voulais juste revenir sur un petit, si vous me le permettez, Françoise, sur ce que vous avez dit sur Terra Nova, Jean Jaurès et l'Institut Montaigne. J'ai d'abord été étonné que vous mettiez dans le même panier l'Institut Montaigne ultralibéral qui ne doit pas vous plaire avec Terra Nova qui est plutôt dans vos idées, ma chère Françoise. Non. Et puis deuxième chose, moi, quand j'avais fait un débat avec Jean-Luc Mélenchon avant le premier tour, j'avais pointé du doigt un certain nombre de choses, notamment le financement de son programme économique, le financement avec le niveau de dette que l'on a. C'est un vrai sujet. Alors, vous allez me dire, je ne crois pas plus à votre analyse qu'à celle de Terra Nova ou l'Institut Montaigne. C'est possible. Mais laissez croire aux électeurs de gauche, Françoise, qu'on va raser gratis demain et que le SMIC sera à 1500, voire à 2000 euros. Attention au réveil douloureux.
Non, mais Eric, moi, je ne veux pas polémique avec vous ni avec Elisabeth, parce que j'écoute toujours avec attention. Non, parce que ce n'est pas notre
niveau.
Débat,
on analyse.
Non, on débat. Je parlais simplement, je parlais de ces instituts qui sont qui fonctionnent, si vous voulez, qui ne disruptent plus, mais qui, en réalité, ont perdu une forme de créativité.
C'est important de le dire.
C'est
important de le dire pour les auditeurs de Sud Radio sur ces instituts-là, qui ne connaissent pas forcément, c'est des instituts qui peuvent avoir un pouvoir sur la décision aussi, d'analyse important.
Mais un pouvoir de décision, c'est évident.
C'est important de le préciser aussi.
Mais vous avez absolument raison, Benjamin.
Pour le coup, je crois que c'est un débat, je ne suis pas sûr que ça passionne nos auditeurs. Pardonnez-moi, là, mais on a déjà fait beaucoup sur Terra Nova et compagnie.
Je regrette.
Mais ce n'est pas des idiots, nos
auditeurs. Le fait d'avoir une idée précise sur le programme économique de Jean-Luc Mélenchon, si, c'est un débat.
Oui, mais alors, écoutez, moi, je vous renvoie. Alors, vous avez raison.
Moi,
on
ne
va pas débattre du programme.
Débat sur les programmes.
Je ne vais pas vous relancer, je ne vais pas vous redonner les arguments de la gauche sur le financement, etc. On ne va pas refaire ça. Par contre, ce qui est intéressant, et vous levez un point politique fondamental, j'en ai parlé un peu dans mon édito, mais c'est ça le fait majeur politique, c'est que nous n'avons pas le début d'une queue de cerise du programme d'Emmanuel Macron sur la législature qui vient. C'est ça le sujet.
Et on y reviendra.
On parle de l'affaire Abad et qu'on parle de
la gauche, elle met son programme sur la table.
On est d'accord. Pensez juste aux auditeurs, parce que déjà, pour certains, ils sont dans les bouchons, il y a les klaxons. déjà. Ah, et puis en plus, c'est vrai qu'on parle les uns un peu sur les autres, pauvres. Donc on va essayer de faire attention un petit peu à ça.
Moi qui ai été très discipliné, est-ce qu'Eric pourrait me répondre quand même? Je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais ça, je crois que c'est vraiment une grande préoccupation. C'est-à-dire, comment dans le contexte actuel, à mon avis, c'est quand même lié, si vous voulez, c'est un effet au sens large de la mondialisation depuis des années, la paupérisation des classes moyennes, hein, notamment. Comment dans le contexte actuel, on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus en France de gens qui, quand ils reçoivent leur salaire, ne peuvent pas faire au-delà de se nourrir et de se loger. Et ça, c'est la question essentielle pour beaucoup de gens.
C'était votre première question, Elisabeth. Et Eric Revel, je vous propose de donner justement votre réponse juste après une petite page de pub. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Elisabeth Lévy, avec Eric Revel et Françoise Degoy qui sont toujours là. Et vous, 0826 300 300, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
9h21 sur Sud Radio. L'ambiance est toujours chaleureuse, conviviale ici sur Sud Radio avec vous.
Faut pas croire ce que vous entendez.
Avec Françoise Degoy. Bah, ça peut parler fort avec Elisabeth Lévy, Eric Revel, ça peut parler fort. Mais il y a du respect et on débat et on aime débattre. Et justement, et tout le monde a une opinion différente. Et c'est ça la richesse.
Même
aussi.
Si les astres libéraux.
La dispute, c'est la vie et c'est la France. Voilà. La dispute civilisée.
Bien sûr.
Pense que c'est très normal. Et des fois, on monte un peu dans les tours. Mais.
Je suis obligé avec les deux libéraux que j'ai en face de moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Entre Eric Revel et vous.
Et ça y est, c'est reparti. Bon, on va recadrer un petit peu avec la question, mon cher Eric. La question, c'était juste avant la pub. Hein, Elisabeth Lévy qui vous demandait, qui vous posait cette question. Enfin, finalement, on a l'impression un petit peu de plus en plus que le salaire, il suffit juste à becter, quoi, à manger de plus en plus.
Et encore,
parfois, c'est juste. Ça aussi, c'est un enjeu important, au-delà du plein emploi en tant que tel, quoi.
Ah bah oui, ça c'est évidemment l'essentiel, c'est le point central. Elisabeth et Françoise ont tout à fait raison, c'est le point central. Alors maintenant, il n'y a pas en réalité de baguette magique. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi rapidement. Il y a deux façons de traiter le sujet. Bon, l'inflation va être à 5-6%. Je pense que le plus difficile va être devant nous à la rentrée en matière de prix de première nécessité, de prix à la consommation. Donc c'est un vrai sujet, le pouvoir d'achat. C'est un sujet économique, mais c'est un sujet social aussi. Attention, hein. Bon, il y a deux façons de le traiter, à mon avis. Un, ce qu'essaie de faire le gouvernement en ce moment, ce que j'appelle des recettes, des aides de poche, c'est-à-dire que ponctuellement, on signe des chèques, bientôt le chèque alimentation qui a été promis par Bruno Le Maire, le chèque essence qui s'arrête le 31 juillet, là, les 15 centimes à la pompe, qui va être remplacé par un mécanisme gros rouleur dont on ne sait pas grand-chose. Bon, ça, c'est une façon, j'allais dire, non structurante de traiter la question du pouvoir d'achat. Et puis, il y a ce que propose Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui a une augmentation du SMIC à 1500 euros. Là, c'est beaucoup plus structurant, parce que là, ça va directement sur la feuille de paye. Bon, alors, le problème, parce qu'il y a toujours un problème, Françoise, évidemment, s'il suffisait d'augmenter les salaires, ce serait facile à faire, s'il n'y avait pas d'inconvénients majeurs. Vous allez peut-être trouver que c'est un propos libéral, mais attention, il y a deux risques avec l'augmentation des salaires. Il y a deux risques avec une augmentation des salaires, même si l'augmentation du pouvoir d'achat est nécessaire, je le redis, hein. J'ai pas de baguette magique, je le redis, hein. Bon, premier point, c'est que si vous augmentez le SMIC, le salaire minimum, vous êtes obligé de donner un coup de pouce à l'ensemble de l'échelle des salaires dans l'entreprise, avec un corollaire. Est-ce que toutes les TPE, les PME françaises peuvent se permettre, vu l'état de trésorerie, d'augmenter les salaires et le SMIC? Je ne sais pas, mais je ne crois pas.
Nous, on ne peut pas, par exemple, à causeur, je vous le dis. On ne pourra pas le faire.
Et deuxième effet pervers en cas de forte inflation, ce qui est le cas aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je suis désolé, mais les coûts de production, ils sont liés au coût du travail. Or, si vous augmentez le coût du travail, mais qui est en fait un pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français qui en ont besoin, si ces coûts de production augmentent, vous donnez de nouveau un coup de pouce à l'inflation. C'est ça la réalité. C'est très compliqué à traiter. C'est vrai que c'est jamais le moment pour les patrons d'augmenter les salaires de leurs employés, c'est bien dommage. Voilà. Et je ne sais pas comment on va s'en sortir.
Voilà, Eric, merci, Eric, parce qu'il m'interpellait en une seconde. Merci de dire, je pense que vous résumez absolument ma pensée quand vous dites « je sais que c'est jamais le moment ». Voilà, ça n'est jamais le moment. Depuis 20 ans ou 25 ans que je suis journaliste politique ou que je suis actrice politique dans un gouvernement, j'ai toujours entendu Et malheureusement pour moi, que ce soit la gauche de François Hollande, que j'ai soutenu, j'étais dans son gouvernement, ou que ce soit la droite, j'ai toujours entendu ce discours. Et je vous remercie d'avoir cette honnêteté, avec cette forme de dérision, de dire je sais que ça n'est jamais le moment. Eh bien, il faut qu'à un moment donné, ce moment vienne.
Attendez, voilà. Excusez-moi.
On vous a entendu, Françoise-Élisabeth Lévy.
Excusez-moi, mais le problème, en fait, je suis navré, c'est la mondialisation. C'est-à-dire, on a mis en concurrence des ouvriers français et des ouvriers chinois. Évidemment, si vous voulez, que ça ne pouvait pas se passer autrement. Donc il a été, il a été pendant le dernier quinquennat, me semble-t-il, à un moment, et ça venait beaucoup de la gauche d'ailleurs, Françoise, penser une forme de protectionnisme éventuellement européen, c'est-à-dire à un moment, si on ne protège pas nos industries, on va devoir aligner les salaires des ouvriers français, européens, allemands sur ceux des ouvriers chinois, voilà.
Ouais, Éric Revel, c'est vrai que là-dessus, pour le coup, il y a aussi cette question de système. Enfin, au-delà justement des mesures au coup par coup ou des mesures sur le plus long terme, il y a aussi cette question d'environnement.
Il
n'y
a pas de mondialisation heureuse, ça n'est pas vrai. Hein, moi, je comprends pas.
Merci.
Hein. Pas du tout.
Mais ça, excuse-moi, la gauche s'est jetée dedans aussi.
Bien sûr. Ça a eu un effet, évidemment, la mondialisation qui a été plutôt malheureuse pour notamment une partie des Français qui étaient les plus en difficulté. Donc c'est une mondialisation malheureuse. Mais au-delà de la pression sur les salaires que ça a entraîné, Elisabeth a raison de rappeler que le niveau du salaire, évidemment, d'un collaborateur chinois pour la même production, c'est pas celui d'un Européen, ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a eu un autre effet, c'est qu'on a, il ne faut jamais l'oublier, on a délocalisé nos productions. C'est-à-dire que non seulement on a fait pression sur les emplois qui restaient, mais on a siphonné. Et tout ça ne commence pas d'hier. Si vous vous souvenez, sous Giscard d'Estaing, le président Valéry Giscard d'Estaing avait décidé, vous en souvenez, d'arrêter la filière des machines-outils.
Parce qu'on était déjà parfaitement raison.
Eh bien, les choses ont commencé là.
Non mais c'est terrible, c'est un processus tellement dur à inverser.
Puis ensuite, vous avez des grands patrons, je le rappelle, parce qu'ils ont leurs responsabilités. Oui,
Alcatel, va nous parler d'Alcatel.
Mais non, mais il a raison, Eric, de le rappeler inlassablement.
Je pense à Serge Turuc, chez Alcatel, qui a expliqué qu'on pouvait faire de l'entreprise, on pouvait faire de l'industrie en France sans unité de production. C'était le faberless. Il n'y avait plus besoin d'avoir des usines en France. Très bien. Ben, on a accumulé les erreurs, et il faut le dire quand même, le patronat français a sa part de responsabilité.
Absolument. Dans ce fiasco.
Les gouvernements aussi, ceux qui l'ont conseillé, c'est-à-dire des grands patrons français.
On va terminer là-dessus, Eric. Est-ce qu'on peut revenir ? Est-ce que c'est réversible ou pas ? Parce qu'on parle de réindustrialisation en permanence en ce moment. Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce qu'on peut y arriver ? Tout simplement.
C'est pas simple. Moi, je pense que... Non, mais attendez... entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais la vieille industrie qui s'est délocalisée, elle reviendra jamais. En revanche, la révolution digitale, on a commencé par la spéculation sur Internet tout à l'heure avec Elisabeth, mais on a aussi de très très belles licornes en France. On a de très belles entreprises du digital. C'est là-dessus qu'il faut miser. C'est celle-ci qu'il faut aider à se développer. Parce que derrière, vous avez toute une industrie nouvelle du digital, du numérique, dont la France peut être un des grands pays bâtisseurs. On l'a montrer. Alors, on n'a pas de GAFAM, nous, mais on a d'autres très belles entreprises digitales. Donc, peut-être que c'est là. Et la dernière leçon qu'on nous a donnée, vous en souvenez, c'est cette petite start-up nantaise qui produisait des vaccins contre la Covid-19 et qui est partie vendre ses vaccins en Grande-Bretagne parce qu'on n'a pas su la développer et la retenir. C'est ça aussi. C'est ces entreprises-là qu'il faut aider, qu'il faut faire grandir.
Et c'est là que se trouve le gisement
d'emploi de demain.
Mais Eric, avec le bémol qui est un domaine que je connais très bien, c'est-à-dire l'agroalimentaire, il faut aider nos fleurons de l'agroalimentaire parce que ça reste quand même ce qui nous permet de tenir dans le désastre de la balance commerciale extérieure, c'est nos produits agroalimentaires. Il faut absolument aider les grandes entreprises, qui ne sont pas délocalisables d'ailleurs, qui sont disséminées dans tout le territoire, qui font vivre des bassins entiers de vie. Eh bien, il faut les aider à se développer, à passer au stade de ETI et continuer à soutenir des maisons comme Hermès. Je pense au luxe. Le luxe fait partie, ne se délocalise pas forcément. Hermès, par exemple, sa grande fierté, grande maison, a refusé d'ailleurs pendant le Covid l'aide en disant « nous avons suffisamment de moyens, nous ne prenons pas l'aide de l'État, c'est notre rôle dans la solidarité » et continue à produire en grande partie en France. Donc je pense qu'il faut aussi, vous avez raison sur les industries du futur, mais je pense que si on aidait notre filière agroalimentaire qui est la deuxième industrie de France derrière l'automobile, eh bien je crois que si on l'aidait à se développer en ETI notamment pour conquérir de nouveaux marchés, ce serait très bien aussi, non ?
Et rappelons juste, puisque vous en avez parlé, Françoise, pour conclure, le chiffre quand même désastreux, désastreux, sur lequel on aurait aimé qu'Emmanuel Macron s'explique. Et le commerce extérieur, on va être à moins 100 milliards d'euros cette année. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est absolument hallucinant. Ça, c'est le syndrome, le symbole, le plus farouche, le plus éclairant.
C'est-à-dire le cognac ne peut pas tout compenser. Le cognac ne peut pas tout compenser.
Un mot d'Elisabeth Lévy avant de
passer. Qui a été extrêmement sage. Non, je voulais juste dire, peut-être ce sera pour un prochain sujet d'Éric, il y a aussi un véritable problème pour trouver des financements en France. Pour quand vous êtes une nouvelle boîte, etc., que vous avez besoin d'investissement, vous devez aller en chercher à l'étranger, ça fait vraiment mal au cœur.
Comme les partis politiques d'ailleurs.
Merci beaucoup. Ah bah, voilà. J'avais pas vu venir celle-ci. Merci beaucoup, Françoise Degois. Ah oui, sans moi. Merci à vous, Elisabeth Lévy, également. Et un grand merci aussi, Éric Revel, d'avoir débattu. Comme quoi aussi, en fonction de ce que vous nous demandez sur Sud Radio, les auditeurs, on est capable aussi d'évoquer d'autres sujets, sur l'emploi, sur la réindustrialisation. Et puis sur le burkini aussi, On peut parler de tous les sujets sur Sud Radio. Vous êtes les bienvenus. J'ai un petit mot quand même pour Gérald, notre auditeur, qui voulait passer dans le débat. Malheureusement, on n'a pas pu. Rendez-vous est pris pour lui. S'il veut rappeler demain, il sera en priorité, bien sûr, à l'antenne sur Sud Radio. 0826 300 300. Dans un instant, allez, on part en week-end prolongé. Le tourisme, les vacances, c'est tout de suite sur Sud Radio. À tout à l'heure.